Cochet, le chien, ça n'est que les chiens. C'est nous, les chauds, du belge breton. C'est un chien. Les gâtés, moi. Mange la bonne viande, viande bien tendre, comme nous, hein. Faut faire son métier, hein. C'est lui la loi ici. Ça, il fait le ménage quand de temps en temps, au début, c'est nous, quoi. Il a bien fallu après la distance. Avec le PD, rien qu'à l'odeur.
L'odeur, ils ont beau s'habiller à la comme chez nous et puis mettre du parfum partout, hein. Ils peuvent pas tricher avec, hein. Ah ben, il se trompe plus, le chien.
C'est con, hein. C'est nous, quoi. Du vrai, aussi joué, ça fait qu'un beau. On sait pas, mais il a sauté sur le rentré. On lui a jamais dit de rentrer le café. Il y a une boîte dehors, hein. Il a eu bien raison. On voulait plus prendre le chien. Et nous, on est un facteur. On est allé devant lui acheter. C'est nous, quoi. Impeccable. Tranquille. Il se trompe plus. Solide. Il reconnaîtra jamais à ça, je crois. Même nous. On veut quand même pas demander d'être intelligent que nous, hein.
C'est type ami, hein. Ça truffe dans les pattes.
On donne la papa à papa. Donne la papa ta papa.
Couchez le chien. Adolphe.
Un peu de pain. Un peu d'eau fraîche. L'ombre d'un arbre. Et tes yeux. Aucun sultan n'est plus heureux que moi. Aucun mendiant n'est plus triste.
Femme qui ressemble au vent, même dans la douleur. Femme qui prend le temps de connaître par cœur. Femme qui fait la vie d'une fleur de mégot. Femme qui prend le pli pour le moindre tango. Femme les hanches dormantes sous la mare tout en verre. Femme saintement reçue pour virer à l'envers. Femme jambes qui filent sur le trottoir trop vieux. Quand la lune de sel étire son échine. Femme de tous les crimes, femme de tous les jeux, femme de la vitrine, femme du besogneux. La femme éclatement de la vie par le ventre, espoir de ma lutte, multiple vérité. Femme, regarde ma tête, poète déplumé. Ma tête qui déborde sur tous les encriers. Prends mon cerveau tout chaud, encore de ma pensée. Pose-le sur ton ventre et dis réalité.
C'est le moment, tu t'en vas vers une autre vie dont tu ne sais rien encore. Sauf que c'est I'm
Faudra que ton angoisse disparaisse si ça passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour, bonjour Sylvie.
Bah, bonjour Denis. Donc.
Eh bien, oui, aujourd'hui, on va aborder la question de l'insertion. On va faire une critique de l'insertion. À travers un livre qui s'appelle Les Naufragés.
Oui, ça s'appelle Les Naufragés, avec les clochards de Paris. Donc, c'est pas des gens qui sont seulement SDF. Hein. Le degré ultime. Même, c'est pas seulement une différence quantitative. C'est une population complètement différente. Et du coup, Patrick Declercq, qui est l'auteur, moi, c'est. Quand on me demande quel livre je suis pas sortie comme je suis rentrée, je cite ce livre. Je suis pas la seule. Hein.
Oui.
Il est en vente à Publico, d'ailleurs, parce que l'auteur était un psychanalyste à la base et un médecin qui était spécialisé dans les clochards justement,
oui.
Et il a un peu appris, enfin il a compris simplement, il explique beaucoup dans le bouquin à travers beaucoup de cas que les gens qui veulent guérir entre guillemets les clochards sont totalement à côté de la plaque. Déjà les résultats sont parlants, il n'y a pas de guérison, et quand tu veux les insérer, le résultat 100% des cas, il n'y a pas d'exception, le résultat c'est que dans le meilleur des cas ça bouge pas, mais la plupart du temps ils meurent quand on veut les insérer, ils meurent dans les mois qui suivent. Et pourtant, les psys, ils percutent pas plus pour autant. Et tu verras dans l'extrait que tu vas lire tout à l'heure, enfin,
oui.
Vous allez voir,
oui.
Que, en fait, un des problèmes, c'est de la part des psys, hein, c'est le refus, le déni, même pas le déni, l'incompréhension sur ce que c'est que l'altérité. Que c'est des gens qui veulent pas, tu vois, ils se disent, oh ben moi j'aurais pas de travail, j'en voudrais un, et tout, tu vois. J'aurais pas de maison, j'en voudrais une.
Ouais.
Et j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a eu un frère clochard, et ben il est toujours vivant d'ailleurs, comment dire, on lui procurait, enfin des tantes lui avaient loué un petit studio, quoi, et il s'est débrouillé pour y faire rentrer d'autres clochards qui l'ont chassé, mais il n'en voulait pas. On lui relouait autre chose, il se débrouillait pour le perdre. Si on lui donnait de l'argent, il le distribuait aux autres clochards. Et ça lui arrivait même de se faire engueuler parce qu'il ne donnait pas assez. Il disait, ouais, mais j'ai tout donné, j'ai plus rien. Donc, toutes les solutions qui étaient envisagées pour lui tournaient beaucoup autour de l'insertion, justement. Et c'était complètement à côté de la plaque. Et dans le passage donc des naufragés, on voit bien à quel point il y a une incompréhension totale de valeurs qui sont de présupposés qui sont pas qui les concernent pas, quoi. Ils peuvent pas comprendre autrui, et d'ailleurs en général. Donc en arrivant dans le métro, j'ai pris le 20 minutes d'aujourd'hui et j'ai gloussé, car si tu peux nous lire ce que...
Oui, avant de lire des extrait donc des naufragés de Patrick Declercq, on va lire un article donc du 20 minutes d'aujourd'hui, mercredi 22 novembre 2023, avec au milieu de la page un dessin du personnage Gaston Lagaffe de Franquin. Alors avec le titre Gaston rentrerait-il dans la case entreprise? Pour la sortie du 22e album de Gaston Lagaffe, on s'est demandé si l'éternel maladroit ferait un bon employé. Jean-Loup Delmas. Alors, c'est l'un des personnages les plus iconiques de la BD franco-belge, Gaston Lagaffe. Son goût prononcé pour la paresse et ses facéties reviennent en librairie ce mercredi à l'occasion de la sortie du 22e album, Le Retour de Lagaffe. Mais tout salarié le sait, le vrai monde professionnel a sa part de cruauté. Un Gaston Lagaffe y survivrait-il ou serait-il viré au bout d'une heure? On a demandé à trois experts du monde du travail. Dominique Primo, syndicaliste CFDT. Gaston Lagaffe lui évoque une personnalité sympathique et un gros travailleur, contrairement au cliché qu'on a de lui d'un être purement intéressé par la paresse. Il suffit de voir le nombre de machines et de gadgets qu'il fabrique. Il a beaucoup de valeur. Il est notamment très empathique. Il n'est pas très apprécié de son patron, mais il me semble aimer des salariés. Pour le gérer, son imagination peut être mise à profit dans une organisation syndicale. Il serait capable de trouver des actions originales pour mobiliser les salariés et pour des idées d'organisation du travail un peu décalées. Et cela peut permettre de toucher des salariés qu'on n'aurait pas eu normalement. Une personnalité comme lui, c'est une plus-value. Par ailleurs, il porte tout un discours sur le bien-être au travail et essaie toujours de trouver des solutions pour avoir de meilleures conditions de vie. Je pense qu'il est tout à fait défendable syndicalement face à un patron qui voudrait le virer, car il a une grosse plus-value pour l'entreprise et pour ses collègues. Il se répète un peu là. Il suffirait de montrer les bons points qu'il apporte et d'essayer de gommer les fois où il pousse le bouchon trop loin. Marie-Claude Martin, RH. Pour la détectrice de talent, RH au sein du cabinet de recrutement Skillency, Gaston Lagaffe incarne des thématiques très actuelles sur le monde professionnel, le bien-être au travail, l'importance de la vie privée et la liberté horaire et d'espace. Alors moi, quand j'ai lu les bandes dessinées de Gaston Lagaffe, j'ai pas vu particulièrement une préoccupation de bien-être au travail du personnage, mais
non.
Bon,
je
referme la parenthèse. On le voit aménager son bureau, rapporter des objets de chez lui, s'approprier son propre temps et son propre espace. Ce sont finalement des revendications très modernes chez les salariés, et donc à ce titre-là, il ne me semble pas critiquable. Bien sûr, le trait est grossi et il faudrait le limiter dans ses siestes et certaines de ses créations. Mais ça n'empêche pas ses envies de base d'être juste et légitime. Tout le monde aspire à un meilleur équilibre vie privée-travail. On peut voir dans sa démarche du quiet quitting, ce mouvement américain qui consiste à ne faire que le strict minimum au travail pour garder son énergie pour le reste. Sur le plan professionnel, quand je vois Gaston Lagaffe, je ne vois pas un mauvais employé, mais un employé qui n'est pas à sa place. Il s'ennuie terriblement et n'exploite pas ses capacités. Je le replacerai bien dans la recherche et développement ou comme Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer, c'est un employé qui est dans la boîte. Et juste pour donner une super ambiance de bonheur dans l'entreprise. En fait, c'est ça son boulot. Je pense qu'il faut une sorte de coach un peu aussi. Je pense qu'il faut exploiter sa créativité et son imagination, soit pour en faire des produits, soit pour gérer le moral des employés. Gaston Lagaffe me semble plus la conséquence d'un mauvais management très pyramidal et autoritaire. C'est surtout ça que j'essaierai de gérer, un management trop toxique à mon sens, ce que dénonce d'ailleurs clairement la BD. N'oublions pas que Gaston est le héros. Alors là, deuxième parenthèse, un management non pyramidal et pas autoritaire dans une entreprise, je ne sais pas si ça existe vraiment.
Non, je ne bon. Vois pas ce que ça veut dire non plus. Je ne veux pas le savoir.
Enfin bon, dernière intervention, Virginie Fevet, PDG. La patronne de la société StarHack, avec un H, centre de formation dans le numérique, estime que Gaston Lagaffe a assurément un côté maladroit, mais il me semble porter des valeurs que tout PDG recherche. C'est quelqu'un d'entier à qui on peut faire confiance, cela ne me semble pas impossible d'avoir un Gaston en entreprise. Je pense qu'on rirait bien qu'il a de bonnes idées, qu'il faut trier et qu'il a un véritable don pour créer du lien, ce qui est essentiel. Le rôle d'une PDG, d'une société, est d'accompagner ses employés pour gommer leurs erreurs, non de les blâmer. Pour celle-ci, c'est d'ailleurs important pour une chef de rappeler qu'on fait tous des erreurs, qu'on a un côté gauche, que nous sommes humains, et heureusement, on n'est pas parfait. Pour Gaston, j'essaierai de comprendre les raisons de sa démotivation et de l'accompagner avec beaucoup de précautions. Il ne faut pas brider sa créativité, mais la canaliser et booster sa confiance en lui, car c'est, à mon sens, l'une des grandes raisons de sa démotivation. Pour lui donner confiance et canaliser son imagination, j'essaierai de lui créer des routines de travail, de mieux segmenter et organiser son temps afin qu'il soit en confiance et qu'il ait un cadre. Voilà. Alors, on va faire un commentaire.
Bon, on nous commente peut-être.
Comment ?
Je sais même pas quoi dire.
Ah ben, voilà. Donc, on sait que ce personnage Gaston, qui a été créé un peu dans... Enfin, qui a été apparu quand même dans les années 70, hein, dans la comète à post-mai 68, quoi, on peut dire, avec toute son esprit, avec tout un esprit à cette époque qui était de remise en cause aussi des institutions, du travail, etc. Et là, on l'a complètement sorti de ce contexte-là, et on veut en faire quelqu'un qu'on peut domestiquer en quelque sorte.
Oui, je trouve que en effet, j'ai trouvé ça incroyable que je tombe là-dessus ce matin dans le journal gratuit parce que j'étais justement sur un passage parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre Les Naufragés, donc comment dire, c'est il fallait en choisir un aspect, mais enfin Patrick de Clercq disait anarchiste. Enfin, ça lui est arrivé de se dire anarchiste. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont intéressantes, d'autant plus que c'est basé sur son expérience, quoi. Donc, cette idée justement de remettre en cause ce que tu viens de dire là, quoi. Finalement, cette rage d'insertion. D'ailleurs, c'est très très rare que on remette cette idée en cause. Dans le livre qu'on avait lu la dernière fois de À en devenir fou.
Oui.
On m'entend pas. Oui. À en devenir fou, il évitait pas cet écueil. Il dit ouais, c'est pas bon pour l'insertion. Pour l'insertion, faudrait ci, faudrait ça. Et en effet, au-delà de ce cas, on va dire extrême des clochards, où c'est l'altérité. Enfin, il en parle. Il dit c'est vraiment l'altérité parce que des gens qui, par exemple, sont jusqu'à être gangrénés ou avoir une fracture qu'ils veulent même pas soigner, ou même qui arrivent à se mettre dans un état pareil, quoi. C'est vraiment l'altérité. Et donc lui, son idée, c'est qu'il n'y a pas à chercher même à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, où il n'y a rien à faire d'autre que dans ce qu'il exprime, quoi. Qu'il n'y aurait rien à faire d'autre que de se dire, si on était dans une société libertaire, par exemple, il dit que c'est impossible dans une société capitaliste et hiérarchisée, c'est impossible de voir autre chose que des poussées à l'extrême, parce que c'est encore plus absurde que des âneries comme ce que tu viens de lire, quoi. Et donc, justement, il dit non, dans une société libertaire, on s'adapte, on se dirait, je comprends pas, mais le problème n'est pas là, on s'adapterait à ce dont ils ont besoin, et c'est très, très fluctuant, généralement. Mais il n'y a aucune... même mon frère, qui heureusement au moins ne boit pas, mais qui est schizophrène, j'ai compris beaucoup de choses en lisant ce bouquin sur mon propre frère, quoi. Pourquoi il refuse finalement de se stabiliser, qui s'en va, il revient. Or, ils sont dans l'idée, par exemple, ils font des chantages. Tu pourras être hébergé, mais il faut que tu arrêtes de boire. C'est un truc, c'est ridicule. Tu vois, mais rien à faire. Et ils ont, et c'est vraiment, il est catégorique, 100% d'échec, 0% de réussite sur l'idée de la guérison et de l'insertion. Mais rien à faire, ils ne comprennent pas. Ouais.
Alors, si tu veux, pour en lire quelques extraits.
Je t'avais mis un... tu vois, c'est à partir de là. Donc, il parle d'un cas. Et après, il fait le commentaire sur ce qui fait que oui, tu vois, jusque... Attends, ça, j'ai dû mettre au...
Ah, jusqu'au marque-page, peut-être
peut-être. Oui.
Là,
oui, tu vois, ouais. Sur quand il fait de tout ce qui concerne ce... Je crois qu'il s'appelle Raymond, et à qui on me fait du chantage... parce que l'erreur, et mon frère, ça lui est arrivé aussi, c'est-à-dire que l'erreur, c'est que quand on les voit qu'ils travaillent un petit peu, on se dit c'est bon, ça y est, on l'a, on va le réinsérer, il va trouver un job, il va se stabiliser, il va arrêter de boire, enfin je t'en passe, et des meilleurs. Et pourtant, c'est hurlant que la personne ne veut pas, mais rien à foutre. Voilà.
J'ai retrouvé le dossier de Raymond. Celui de son passage à la maison. Le complet, celui avec les rapports. Celui qui sait tout. Tous les hébergés en ont un. On découvre d'abord la fiche générale qui offre un aperçu de son parcours au sein de l'institution. Il a déclaré être serveur de profession et, comme tel, sera tout de suite affecté à la salle de garde en tant que travailleur de deuxième catégorie, au pécule mensuel de 345 francs. Il passera ensuite travailleur de première catégorie, 465 francs par mois. Le 5 janvier 1989, il bénéficie d'une prime de 30 francs. Le 30 du même mois, on lui accordera une prime de 100 francs. La prime récompense la qualité du travail accompli. Le 15 juin 1989, Raymond déménage et passe du centre d'accueil, sans limite de durée de séjour, au foyer de réinsertion, séjour de 6 mois ou renouvelable une fois, avec la mention « stage extérieur ». Voilà, on était content de lui, Raymond, bon travailleur, gentil, poli, promu. Il avait même droit à de petits cadeaux, primes par-ci, 30 francs par-là. Il semblait tellement bien qu'on s'est pris à rêver pour lui d'un bel avenir. La réinsertion, ce graal du travailleur social qui se profilait à l'horizon. Avenir glorieux. Raymond, on allait en faire un miraculé. Organisé à Petit Lourdes, rien que pour lui. Il pouvait, il allait, il devait s'en sortir. La salle de garde n'était pas assez bien pour son immense potentiel. Oh que non! Il méritait mieux, 100 fois mieux, 1000. On a pensé qu'il serait bien plus heureux à l'extérieur, Raymond, dans le monde du travail et les lumières de la ville. Un stage extérieur, voilà ce qu'il fallait, a-t-on jugé à un homme comme lui. Une formation. À son âge, 44 ans, pratiquement un jeune homme. Toute la vie devant lui. Ah, il faut être optimiste. Positif, voilà le mot. Voilà le grand secret de la réussite. Une formation, rien que pour lui. Lui choisi entre tous, aubaine, gros lot, immense honneur. La fiche conclut, radié le 27 juillet 1989. Tiens, à Raymond, ça n'a pas dû lui plaire, la réinsertion. Les joies de la normalité, les grandeurs de la pleine citoyenneté. Il a tenu un mois et demi, puis il a fichu le camp, honteux, battu, écrasé. Il est reparti vers son pinard, ses souleries, ses délires et sa mort. Un mois et demi de dignité normopathique. C'est que la dignité, c'est un peu comme l'opéra. C'est grand, c'est beau, mais c'est souvent triste. Un peu emmerdant aussi à la longue. Faut aimer, quoi. Il est aussi dans le dossier un document intitulé « Fiche d'hygiène alimentaire ». Cet euphémisme recouvre le compte-rendu des interactions alcoologiques des hébergés avec l'appareil médico-disciplinaire. Dans le cas de Raymond, on y lit quatre remarques. Le 29 janvier 89, 20h25, rentre dans un état anormal, conduit aux urgences, retour en salle. Mademoiselle Lacaille, pourriez-vous le recevoir ? Signé Pinson, assistante sociale. Il était donc rentré, ivre, au point qu'il fut conduit aux urgences de l'hôpital pour y être examiné. Ensuite, il retourna dormir dans sa chambrée habituelle. Pinson, assistante sociale, demanda Lacaille, psychologue s'occupant plus particulièrement des malades alcooliques, de recevoir Raymond. La date de l'incident est importante. C'est en effet le lendemain, 30 janvier, à en croire la fiche générale, que Raymond a reçu sa prime de 100 francs. Soit il l'a touché le 29, soit la célébration anticipa l'occasion. De toute manière, le lien est clair entre un passage à l'acte alcoolique et une amélioration objective de sa situation. Le 26 mai 89, mademoiselle Lacaille, il semblerait en janvier que vous n'avez pas pu rencontrer Raymond. Pourriez-vous le voir ? J'ai une demande de passage en hors catégorie, c'est-à-dire une proposition de promotion au foyer de réinsertion. Y a-t-il des risques ? Signé Pinson. Lacaille n'a pas vu Raymond. Probablement ne s'est-il pas présenté au rendez-vous. Rien du sens de ce qui précède n'a été perçu par les accompagnants. La marche inexorable de la réinsertion de Raymond est en cours. Le foyer de réinsertion héberge des personnes qui travaillent ou sont en stage à l'extérieur. La question de Pinson à la simple lecture des documents est idiote. Les risques étaient démontrés. Le 30 mai 89, vu Monsieur Raymond pour lui expliquer la façon dont est calculé le pécule. Lui demande de rencontrer Mademoiselle Lacaille pour faire le point. Me dit avoir eu des problèmes d'alcoolisme il y a 15 ans, mais les avoir réglés depuis. Lui parle de réinsertion compte tenu de son âge et de sa personnalité. Signé Pinson. L'estocade. Pinson parle à Raymond de l'argent qu'il reçoit et lui fait probablement miroiter qu'il pourrait gagner beaucoup plus à l'extérieur. Elle évoque à nouveau un rendez-vous avec Lacaille. En expliquant qu'il n'a plus de problème avec l'alcool, Raymond tente d'éviter cette rencontre qu'il pense vraisemblablement menaçante. Pinson, toujours sourde et aveugle, ne perçoit rien de ce mouvement. Au contraire, elle le trouve encourageant. Enfin, elle lui dévoile les projets de réinsertion le concernant, en flattant son âge, son jeune, avec point d'exclamation, âge et sa personnalité. Pauvre Raymond, car enfin, comment refuser ? Que dire ? Non, madame, merci beaucoup, mais je suis trop bizarre, alcoolique, faible, fou, taré, pour me permettre une existence autre qu'asilaire. Raymond a fait ce qu'on attendait de lui. Il a dit « Merci beaucoup, madame », et a scellé son destin. 30 mai 89, suivi par Mademoiselle Serin, psychologue, ne présente pas pour le moment une dépendance alcoolique. Signature illisible. Conclusion de la psychologie, cette parente pauvre, ancillaire et trop souvent normative de la psychiatrie, bon pour le service. Il subsiste de la plume de l'inexorable Pinson deux rapports d'évaluation de Raymond. Premier rapport. Raymond, né le, etc., SDF depuis février 88. Marié, séparé, a tenu un emploi dans la restauration jusqu'à la rupture de son couple. Dit avoir un âge critique pour retrouver une place stable. Cette personne ne présente pas un tableau pathologique franc, seul une immaturité et une force tendance masochique dans un contexte socio-économique difficile le mettent en situation d'échec. Pourrait être aidé par le biais du foyer de réinsertion, signé Pinson. Rappelons que Pinson est assistante sociale. On jugera mieux de la valeur et de la pertinence de ce psittacisme psychiatrique qui n'est que le masque grossier du seul principe, du seul désir, du seul fantasme qui compte véritablement, le travail. Le travail qui est la santé et l'antidote à tous les vices. Second rapport. Je rencontre ce monsieur dès le 13 septembre. À l'époque, il souhaite prendre le temps de se soigner avant d'envisager sa réinsertion par le travail. Nous mettons ce temps à profit pour refaire sa carte nationale d'identité, lui attribuer une couverture sociale et constituer une demande de prothèse dentaire. Dès janvier, monsieur dit se sentir mieux physiquement et commence à aborder, lors de nos entretiens, le désir de retrouver un emploi. Il prend contact avec sa famille qui lui promet de lui chercher un emploi dans la région. Reste très secret et peu coopérant, n'a pas répondu à plusieurs de mes convocations où je souhaitais le rencontrer pour faire le point sur ses démarches. Malgré tout, il se décide à me rencontrer début juin où je l'informe du stage de réinsertion qui doit se mettre en place. C'est pour lui l'opportunité de reprendre contact avec le monde du travail et d'être plus dynamique dans ses démarches de réinsertion. Il a obtenu un rendez-vous auprès de l'organisme de formation. L'acceptation de sa candidature reste encore hypothétique. Le 8 juin 89, signé Pinson. Un détail parmi d'autres aurait pu pourtant alerter. Quelques mots dans la fiche d'hygiène alimentaire. Pas nombreux, discrets, mais de poids. À la rubrique « Autorisation permanente de sortie », document délivré aux bons éléments, ceux à qui on peut faire confiance, il est indiqué « 16 février 89, détruite par l'intéressé », soit après sa soulographie du 29 janvier. Il sentait bien Raymond, d'instinct, il avait compris que la liberté n'était pas pour lui, que la liberté était poison. Il n'en voulait plus de sa permission de sortie. Dehors le guettait le désastre et tous les égarements, danger. Aussi lui fallait-il se rétrécir, se retirer, demeurer un peu esclave, un peu bagnard aussi. C'était là en somme sa médecine à lui, bien s'ancrer surtout dans le retour des jours semblables et se cacher, caméléon, gris sur gris, lové dans une bienheureuse médiocrité. Son ambition à Raymond, finir violette, à l'ombre, en paix. C'était là sa sagesse, toute sa philosophie. Il se savait intimement ennemi de lui-même. Quelle pensée ! Comment même pouvait-il la supporter ? Nature d'airain qui ne demandait qu'à vivre peinard derrière les murs à l'abri des barreaux. Galénée, calme comme la mer, disaient les Grecs, pour désigner la tranquillité du sage, la surface imperturbable de sa conscience et de sa vie, qu'aucun désordre passionnel ne vient plus troubler. Un grandiose utérin, Raymond, épicurien aussi, stoïcien un peu. Devant de tels vertiges sombres et sublimes versants, que pouvaient bien y comprendre Pinson et consorts ? Rien. Militante normopathe, que pouvait-elle bien deviner de ces profondeurs ? Rien que les hauts fonds sans surprise de leurs pensées vulgaires. Car c'est bien le propre du vulgaire que d'ignorer toute distance, toute retenue, tout respect, toute réserve devant l'étrange, le différent, l'inouï. Ainsi, les natures basses ne connaissent qu'action, agitation, intrusion. Tous ces véhicules de l'affairisme, de l'exigence du meilleur, ces masques de la volonté du même que moi, pauvre horizon. Le vulgaire, le médiocre, le démocrate, eût dit Nietzsche, le chrétien aussi, fût-ce dans sa version laïque, humanitaire et solidarisante, ne sont jamais capables que de se projeter eux-mêmes partout et dans tout. Amis de l'humanité, vautours de l'homme. Et donc Raymond est parti. Il est parti tout seul le 27 juillet 1989, avec son petit baluchon et sa tête de bonne pomme. Gabi et Fatna, les cuisinières, ses amis, m'ont dit que ça n'avait pas traîné. Aussitôt dans la rue, il a été foudroyé. Tout de suite, il est redevenu clochard pur et dur. Crasseux à faire peur et saoul, tout le temps comme 1000 cochons. Elle savait qu'il était souvent à l'hébergement d'urgence, amené par la police. Elles tentèrent de le voir, mais il les fuyait, tout honteux et souillé de lui-même. Il fichait le camp à leur approche, esquivait de travers. « Oh ! Ce n'est pas elle qu'il fuyait. » On peut en être sûr, c'était lui-même. Ce spectacle désespérant de lui-même recueilli au miroir des yeux des autres. Il se dégoûtait, Raymond. Ne pouvait plus se voir, se sentir. Il était tout enrobé de haine comme une limace de sa bave. Une bave acide, terrible, qui lui brûlait la peau et lui rongeait la vie. Gabi et Fatna, un jour, ont appris sa mort. Elles ne savent plus bien quand ni comment. Combien de temps avait-il tenu Raymond dans son ivresse et son... Combien de temps avait-il tenu Raymond dans son ivresse et son désespoir ? Et sa crasse ? Un mois ? Deux mois ? Pour le savoir, je devais aller voir un ermite. Monsieur Montjoie est policier. C'est lui tout seul, comme un brave qui tient en ordre les fiches du ramassage de police. Son bureau est monacal, sans un bruit. On l'a mis à l'écart. Monsieur Montjoie avec ses fiches roses. 30 ou 40 000 fiches roses. Immense herbier de malheur. Des vies et des vies qu'il tient compressées là dans ses tiroirs. Clin d'œil de l'histoire, Montjoie était le nom du héros français à Azincourt, l'arbitre en somme de la défaite et des morts. La fiche de Raymond, mais certainement la voilà, c'était la dernière, l'ultime, celle de ses ramassages par la police, des nuits à Nanterre, tout ça. Étonnement, un premier passage est signalé en octobre 1980, un seul et unique, mais tout de même. Il n'a pas dû être très clair, Raymond, entre ces deux mariages. Petit passage à vide, une tendance déjà, prolégomène. Quelques passages en 1988, un peu avant son entrée dans la maison, comme hébergé. Du connu, puis au crayon rouge, en travers du texte, DCD 9-10-89, devant la MDN. Et puis aussi une note, commissariat PP-MDN. Il est donc mort dans la nuit du 8 au 9 octobre. C'est au matin qu'on aura trouvé son corps, devant l'hôpital.
Ouais. Alors, tu découvres, tu en penses quoi de ce passage ?
J'ai du mal à faire un commentaire à chaud par rapport à ce que j'ai.
On peut peut-être passer une petite musique ?
Oui, tout à fait. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et on écoute. suite, on écoute eh bien, Le Petit Litre Rouge de Momo C'est Tout, de Thomas Pithiot.
San Antonio, c'est pas beau. Je touche le RMI, la rente au métier d'intellectuel. J'ai une sorte de matière grise payée par l'État. C'est pour ça que je suis toujours gris et rond. Petit patapon, petit patapon. Allez, Anne, faut que je termine le discours que m'a commandé ton député.
Quelque part dans un square, une statue parle vers l'angle. Quelquefois elle se fout de sa gueule, il l'insulte en arabe et le monument n'articule plus rien, car les statues toutes nues, c'est bien connu, ne parlent que le grec ancien. Il a toujours sous le bras un paquet de feuilles manuscrites. Il prétend qu'il y a sa vie là-dedans toute sa vie, et qu'il est grand temps qu'on l'édite. Dès qu'il veut prendre l'âge, il enfourche sa motobiographie. Il a choisi la marge pour sténographier sa philosophie. Il a autour du doigt une alliance qui brille encore un petit peu. Sur sa vieille main toute oxydée, elle lui rappelle qu'il a été bien heureux. Qu'on l'appelait mon amour
mon papa, 10 ans en arrière, juste avant qu'on le remercie avec une enveloppe, son dernier salaire.
Ouais, donc je te disais par rapport, enfin, donc toi, comment tu le ressens ce passage, même si tu sais pas tout ce qu'il peut dire par ailleurs, ouais. Où il développe un peu cette idée du capitalisme, avec cette idée de à quoi tu pourrais bien servir, et si tu sers à rien, ben poubelle quoi.
Ben c'est oui, voilà, c'est que on imagine, enfin, dans les institutions. Ces gens qui travaillent dans les institutions imaginent que toute personne est récupérable pour la rentabilité générale, quoi.
Oui, puis même peut-être aussi, enfin, le sens même de tout, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui, dans quoi il m'assert littéralement, l'idée de à quoi t'es utile, tu vois. Par exemple, si tu leur dis, j'avais rencontré un scientifique qui s'appelle François Terrasson, c'était pour la radio, tu vois, et c'était sur l'idée de l'hygiène d'ailleurs et des préjugés sur la question. Donc tout ce qu'il a dit, c'était complètement fracassant, mais il parlait de ça, de cette idée. Ben, il a fait un article, même peut-être un bouquin qui s'appelait Éloge de la friche, où c'était l'idée que on n'arrive pas à se dire que à sortir de cette idée de l'utilité, quoi, finalement, même dans la nature, que si tout doit nous servir à quelque chose, et c'est assez profond, quoi, si tu veux. Qu'est-ce que tu vois, un animal, une fleur, un bout de terrain, qu'est-ce qu'on pourrait-il bien en faire, quoi, tu vois. Et ben c'est pareil avec, enfin, il disait, c'est pareil avec les humains. Et souvent les gens vont te dire, non, tu crois qu'il sert à rien, mais en fait il sert à quelque chose. Mais donc il contestait l'idée même d'utilité, et c'est ce que fait aussi Leclerc, en fait. Tu vois, pourtant c'est très rare, les gens ils te disent ça. Oui, mais tu crois qu'il sert à rien, mais il sert à quelque chose. Ah bah oui, parce que s'il sert à rien, alors, enfin, tu vois, c'est pas possible comme notion. C'est un truc, et c'est vraiment l'altérité. Les clochards, c'est ce qu'il dit aussi. C'est, il y a quand même quelque chose qui est incompréhensible. D'ailleurs, il le dit dans le passage que tu as lu. C'est hors de leur compréhension. Ils essayent de se projeter. Enfin, de se projeter dans eux, qu'est-ce que je voudrais à sa place, mais c'est pas comme ça que la question se pose. Donc cette notion de guérison, enfin, j'imagine quand on fait une émission comme l'entonnoir, ce que tu peux penser de cette notion de guérison, d'insertion, etc. Mais tu peux me dire quand même.
Oui, ça serait c'est un peu long à expliquer, mais c'est toujours le principe où on cherche à faire de toi quelque chose que tu n'es pas, à t'imposer disons une vie que tu n'as pas choisie, dans un contexte général où c'est vrai que l'idéologie dominante est que tu sais exploiter autrui ou la nature, etc., ou soit tu acceptes de... Tu consens à te faire exploiter toi-même.
C'est... Et que ce serait la seule alternative.
Et voilà, il n'y aurait pas d'autre...
Bouffer ou être bouffé.
Voilà. C'est... Bon, heureusement, nous, on pense... On réfléchit à autre chose, quoi.
Oui, c'est vraiment toute une façon de voir. Et alors, je me disais, peut-être, si, sauf si t'as un invité, quoi, que on pourrait reparler un petit peu de ce que dit Declerc par rapport à ce thème-là, quoi, des clochards, qui sont une sorte de parti émergé. Enfin, soit c'est ce qu'il y a de plus évident. Enfin, il dit à un moment donné, je crois bien que on peut juger une société à ce qu'elle fait de pire. Enfin, c'est ce qui est le plus évident, quoi. Tu vois, et que la manière dont ça se passe pour les clochards signifie, c'est pas un détail, c'est pas un accident,
c'est révélateur.
Voilà,
oui.
Voilà, tu vois, et enfin, je sais pas ce que t'en penses, moi je vois ça, c'est comme ça aussi.
Oui, je suis d'accord.
Tu vois, et donc, moi, ce que j'aurais bien aimé traiter de. Parce qu'il a écrit un autre livre qui s'appelle Le sang nouveau est arrivé. Qui est plus, même s'il en parle dans Les naufragés de Claire, donc, qui est toute la détestation qu'il a de la charité. Tu vois. Et des gens dont c'est dans c'est le pitch et tout, il les traîne dans la boue, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et déjà, en disant que à quel point c'est détestable, quoi, tu vois, vraiment détestable, c'est des gens détestables, et puis qui comprennent rien. Là, dans, par exemple, dans ce livre-là, il parle donc de, d'un type qui lui dit est-ce que vous les aimez, etc. Et il dit c'est quelque chose qui est effectivement haïssable de voir les choses comme ça. Parce que ça, c'est, la charité, c'est se dire ils sont sympas, tu vois, on va toujours insister sur le côté, mais ils ne sont pas sympas du tout. Et en plus, il dédie même le livre aux infirmières qui doivent s'occuper de gens qui sont, enfin, que c'est vraiment pas drôle de devoir s'occuper de gens qui se laissent aller, même, tu vois, il parle de même de l'odeur, quoi, tu vois, comment c'est difficile à supporter. Et puis, par exemple, effectivement, tu les vois arriver dans un état de... Il y a des photos dans le bouquin. T'as vu, c'est épouvantable, quoi. Et donc, il dit de toute façon, c'est pas la question. C'est l'idée de l'humanité, quoi, qui est importante. Tu vois, exactement comme on pourrait dire où on irait si la sécurité sociale, c'était à la tête du client. T'es sympa, on te soigne, on t'aime pas trop. Et c'est ça, la charité, en fait. Il faut que tu sois bien humide, bien reconnaissant, sympathique, etc. Bah, et pourquoi il faudrait de l'amour pour vouloir la justice, tu vois?
Voilà. Et puis, bah, en fait, pour revenir aux institutions, cette institution, c'est aussi un pouvoir de, voilà, qui a une fonction sociale, en fait, de régulation sociale, je sais pas comment on peut dire. Et il y a une relation, un rapport particulier de ces travailleurs par rapport vis-à-vis de ces personnes de la rue. Et alors il y a ce rapport donc inégal, en fait, qui est un rapport de pouvoir. Et en même temps, il peut pas y avoir un rapport complètement affectif par rapport à ces personnes.
Voilà, mais lui il dit que c'est pas la question, oui. Tu vois, et effectivement, quand il évoque l'idée d'une société, comment ça devrait se passer finalement, et je confirme que même par exemple mon frère, des fois il avait, à part l'alcool, quoi, il avait des caractéristiques que j'ai retrouvées dans le livre. Ça fait bizarre, je savais pas que c'était si général, quoi, tu vois, mais d'être très mobile, tu vois, c'est-à-dire que très changeant, c'est-à-dire que par exemple à un moment donné il va avoir besoin d'être, enfin, comme il explique d'ailleurs par rapport au cas que tu as lu,
oui.
il faut pas, enfin, il va avoir besoin d'être quasiment materné, enfin, d'être dans un endroit où il est, on lui amène la bouffe et puis on le fait pas chier et puis c'est tout, quoi, tu vois. Et puis à un moment donné, il va en avoir marre, il va s'en aller. Et puis après, il va avoir envie à nouveau, tu vois. Et effectivement, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait s'adapter, qu'il y ait des structures qui puissent s'adapter à ce qu'ils ont envie, de pas les faire chier quand ils veulent pas qu'on les fasse chier, tu vois, et qu'on n'essaye pas de leur demander non plus ni d'arrêter l'alcool. Enfin, c'est un truc de malade de demander ça, enfin, en ce qui les concerne. Mais je veux dire, le fait de vouloir qu'ils travaillent, mon frère, ils ont tenté la chance, et il va travailler un peu. Et puis à un moment donné, il va en avoir marre. C'est comme ça. Donc il fait des va-et-vient. D'ailleurs, même quand il travaille, des fois, ça dépend quoi, il va travailler comme il faut, comme ils veulent, et tout. Et puis il va en avoir marre. D'ailleurs, il n'y a même pas à se demander s'il a raison d'en avoir marre. Moi, j'aurais tendance à le penser, mais tu vois, mais de toute façon, c'est comme ça. Et ce qu'on voit dans le ce qu'il raconte sur le Raymond, hein, c'est ça, il s'appelle. Eh bien, le fait qu'il meure très rapidement, il dit que statistiquement, c'est presque systématique. Il faut pas leur demander d'être autonomes, parce que comme ça, les forcer, etc. C'est quelque chose qui les détruit, quoi.
Oui. Ouais. Un peu comme un animal sauvage qu'on mettrait en cage et qui c'est mourrait,
oui,
en, dans,
oui.
Sa,
oui, oui, t'as raison, c'est ça,
sa captivité.
Oui, oui.
Et parce qu'on, ce qu'on a pu constater à travers l'extrait que j'ai lu, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'institution psychiatrique, c'est-à-dire le manque d'écoute des personnes concernées. On les écoute pas, on leur impose des choses sans considérer leur désirs, leurs envies, etc.
Oui, oui, tout à fait. Puis même, à la limite, on pourrait accepter, en effet, comme quand Terrasson dit, qu'on pourrait accepter qu'il y ait de la friche, qu'un endroit dont tu fais rien et que tu n'as pas besoin de savoir à quoi il sert, peut-être à rien. Il peut être même légèrement nuisible, mais peu importe, quoi. Tu vois, c'est pas. C'est un autre état d'esprit de se dire, j'ai pas compris, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas mon frère, je comprends pas, tu vois. Mais bon, voilà.
Au moins de le dire, quoi. Je sais pas.
De l'accepter, ouais. D'accepter des choses que des gens que tu contrôles pas tout, tu vois. C'est ce que disait Terrasson. Effectivement, la rage de contrôle, c'est vraiment ça qui fout la merde en réalité. Nous qui luttons contre l'idée de l'autorité, c'est le fait d'accepter que tu comprends pas, que tu contrôles pas. Que tu guéris pas en faisant ce qui te plairait à toi, enfin d'accepter l'altérité déjà, et puis que en réalité le genre de société qu'on veut, c'est une société où les gens sont pas opprimés, mais l'amour est complètement hors sujet parce que ça par contre c'est facultatif. T'es pas obligé d'aimer les gens pour je vois pas comment on aimerait 10 milliards d'individus de toute manière, donc t'es pas obligé d'aimer les gens pour vouloir que la fin de l'oppression des inégalités de enfin tu vois de, et puis voilà tu comprends pas c'est pas grave tu vois je veux dire tu peux essayer de comprendre si t'as envie mais t'es pas obligé non plus d'ailleurs ils te le demandent pas forcément ils demandent pas forcément à être compris voilà.
Alors, ce livre, Les Naufragés, de Patrick de Clercq, qui date de des années 90, non ?
Bah, t'as vu, le truc que tu as lu, c'était 89, donc oui, ouais. C'est dans ces eaux-là, ouais.
Mais, par
il
contre...
Il est décédé, hein, maintenant.
Oui, d'accord. Donc, sa biographie, c'était... Alors, né à Bruxelles le 18 novembre 1953, philosophe de formation, docteur en anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales et psychanalyste, était psychanalyste, membre affilié de la Société psychanalytique de Paris, a publié divers articles ethnologiques et psychanalytiques, temps moderne, esprit, etc., sur la désocialisation, l'errance et l'alcoolisme. Eh bien, on aura sans doute l'occasion de revenir sur cet auteur et sur ce livre Les Naufragés, mais peut-être aussi d'autres.
Oui, oui, justement cette notion de charité qui est pas très, c'est pas très répandu de critiquer la charité, tu vois. Oui. Et donc c'est intéressant. Je me demande si tu as le temps de lire le passage que je t'avais lu. Il est pas très long en réalité.
Oui, d'accord.
Et tu sais, enfin, comme je te disais tout à l'heure, moi chaque fois que qu'on me le relit ou que je le lis, je le connais par cœur. Mais la première fois, j'ai pleuré comme un veau, je te jure. Et en fait, il va dans un cimetière qui est à côté d'un hôpital. Je ne sais plus lequel, ça n'a pas beaucoup d'importance. Un cimetière qui est réservé justement à des gens qui n'ont pas de. Qui n'ont ni famille, ni rien et tout, une sorte de cimetière comme ça, où il y a principalement en effet des clochards ou des malades mentaux qui étaient complètement isolés. Donc tu vois, je t'ai mis un et tout, et puis bon, voilà. Et ça t'avait ému quand je te l'avais lu ? Enfin, tu trouves pas que c'est
oui, tout à fait. Non, mais alors, nos auditeurs et auditrices jugeront par eux-mêmes. Après les tuyaux, le cimetière. Alors, ce qu'il appelle les tuyaux, c'est...
C'est sur un chantier, c'est après un chantier, c'est un endroit vraiment à l'écart de l'hôpital.
Les tuyaux du chantier.
C'est vraiment le, tu sais, un cul de bâche fausse, quoi. C'est un endroit complètement isolé, de toute façon, personne n'y va, donc on s'en fout. Voilà.
Ouais. Un petit bâtiment en garde l'entrée. Un bureau, la porte ouverte. Un préposé assis, pléthorique. Le teint violet, le nez turgescent, une bouteille de pastis sans alcool à portée de main. Un carnet de mots fléchés entre ses bras posés, inertes et tatoués, sur la table en bois. Un absorbé, cet homme. Je suis debout devant lui, mais il n'enregistre pas immédiatement ma présence. Mirage ? Il ne doit pas voir grand monde. Lorsque son regard lointain, absent, s'ajuste sur moi, il a comme un frisson. Il s'ébroue. Moi, bonjour monsieur, je cherche Raymond X. Lui, dans un sursaut. Il n'est pas là, je suis tout seul, il n'y a personne. C'était la journée des intellectuels. En soupirant, je crus devoir préciser. Il est mort. Ah bon ? Fait-il avec un affaissement des épaules, comme affligé. La quête de Raymond finissait en comique troupier. C'était lamentable. Il se reprend. Ah bah oui, évidemment. Je lui donne la date du décès, lui explique que l'enterrement avait dû avoir lieu deux mois après. Il faut regarder dans le livre. Il ouvre un vieux registre recouvert de toile cirée, une relique. Des lignes tirées bien proprement, à la règle. Des dates, des noms. On ne trouve rien. Novembre, décembre, janvier, jusqu'à Pâques, pas de Raymond. On retourne à octobre, des fois que... pas de Raymond. Ce coup-ci, c'est fini. Raymond, je ne le verrai plus. Sa maman a dû le reprendre. Il est retourné dans ses choux. Son trou lointain, sa campagne, ses brouillards, ses rosées. Pastoral, il est, Raymond. Fleuri, peut-être ? Qui sait ? Attendez, me dit le préposé surréaliste. Attendez, on va voir avant. Et le voilà qui se met à tourner les pages de son grand livre, son bottin des morts. Coûte que coûte, il veut m'aider. Qu'un disparu me plaise, au moins que je ne reparte pas les mains vides. On s'est promené dans ces colonnes de morts bien rangées. Jusqu'en 1984, on est remonté, comme ça, au fil des cadavres et des pages. Des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants. Il y avait du choix, pourtant. Il y en avait des pensionnaires, des bataillons. Toute une foule immense de drames qui étaient couchés là, dans ces pages. Une vie, une ligne, hop, machin, né le temps, décédé le temps. Concision. Tout est dit, au fond. Il ne me lâchait plus, le taulier, à exhiber sa marchandise funèbre. Moi, j'étais gêné. J'avais l'impression de faire le difficile. Ce n'est pas gentil de toujours refuser. Devant mes mous, l'autre, brave cœur, se démenait de plus belle. Et il voulait m'en refiler un de mort, n'importe lequel. Vous êtes sûr que vous n'en connaissez pas d'autres ? Je lui ai demandé la permission de visiter un peu le cimetière, par politesse, pour faire honneur. On était fin mai, 5 mois que je courais après Raymond. Oh, pas tout le temps, à l'inspiration, par-ci, par-là. Mais enfin, depuis 5 mois, ce cimetière, je le voyais venir. Logique aboutissement. Je le surveillais du coin de l'œil. Je le repoussais, je le retardais. Sourdement, je m'en méfiais. Je redoutais, j'avais bien raison. Le cimetière de Nanterre, dans son genre, c'est un sommet. 5 étoiles au Michelin de la désespérance. À gauche, tout de suite après l'entrée, une 50aine de tombes se tiennent à l'écart des autres. C'est le beau quartier, celui des membres du personnel, des riches qui ont de la famille, fleurs, pierres, décorations, Jésus, Sacré-Cœur, fer forgé, marbre, des morts cossus, des entourés, des regrettés, chers disparus. Parmi eux, Max Fourestier lui-même qui a donné son nom à l'hôpital. Ancien chef de service de pneumologie à Nanterre, un croisé de la tuberculose. Il ne pensait qu'à ça, Max. Il avait même bricolé un truc à lui, une invention, un bronchoscope d'un genre nouveau, breveté, sérieux. Il voulait voir Max. Saint Thomas de l'alvéole, il cherchait le souffle, anima. Il a demandé à être enterré auprès de ses défunts malades. Pour la tuberculose, Max datait de la grande époque, celle d'avant les antibiotiques. Il a dû en voir des agonisants, des essoufflés, des étouffés en sueur, des noyés dans leur sang. Des qui s'agrippaient, des qui ne voulaient pas lâcher. Des parties soulagées et des parties fâchées. Il a voulu finir près d'eux, Max, pour l'éternité. Chapeau. Au-delà de ces aristocrates du linceul, le désastre, dévastation, désert des déserts, une oppression. J'avançais difficilement comme pris dans la glu, victime d'une pesanteur devenue folle, envahi et dépassé d'effroi, comme penché dans ce vague terrain au bord du trou, du cul de l'univers, il en était des vertiges, des profondeurs, de bien hallucinantes perspectives, des grands canyons de navrance et de néant. D'abord pas d'herbe, du sable, et pourri, trop meuble, presque mouvant. Les croix ne s'y trompaient pas, qui tanguaient toutes de travioles. Des croix affaissées, titubantes, se raccrochant les unes aux autres, se cassant la figure. Bourrées, elles aussi, comme leurs propriétaires. Combien de croix, je ne sais pas. Le gardien non plus ne savait pas, on ne sait pas. On ne sait plus, personne ne sait. Des centaines, beaucoup. Ici, ni fioritures, ni anges de pierre, ni fleurs. Rien que des croix plantées, incertaines, dans le sable. Et sur les croix, un nom avec les dates de naissance et de décès inscrites sur une petite plaque métallique boulonnée sur les bras. Un peu comme dans nos cimetières militaires. Hélas, les métaux ont été mal choisis. La plaque et les boulons font couple électrolytique. Après quelques années, leur support rongé, les plaques tombent et, illisibles depuis longtemps déjà, s'enlisent lentement dans le sable. La croix, alors, perd son mort, devient anonyme, dérive fausse commune. Archéologie. C'est fini, vient le temps de l'ultime naufrage. Tout disparaît, englouti jusqu'au dernier signe. Anonymat et généralité dans la nuit des temps. Tout sombre dans les muets abysses de l'indistinct. Les métaux ne sont pas bons. Depuis des années et des années, on se trompe de métaux. C'est une erreur qui ne doit pas passionner beaucoup de gens. Les tombes des musulmans tiennent mieux le coup. On leur a bricolé une sorte de petite arche de bois d'une quinzaine de centimètres de hauteur. La plaque y est vissée. Elle reste beaucoup plus longtemps. Illisible soit, mais présente tout de même. Côté sobriété, c'est réussi. De l'austère absolu. Forcément, ils n'ont pas de famille. Vieux pauvres, clochards, autant de morts, deux fois morts. Perdus et reperdus. Archi disparus. Du sable, c'est tout. Parfois, tout de même, très rarement, un minuscule remords, une petite plaque de marbre, style ex voto, taille carte postale. J'en ai vu une, éternel regret. Chez les femmes, les copines de chambrée se sont cotisées, ils se sont allés de leurs 3 francs. Tontine, pour Yvette, pour Simone, du pathétique. Des orchidées en plastique dans des boules avec de l'eau et des paillettes dorées pour que ça fasse joli, comme une pluie d'or quand on les bouge. Mais personne jamais ne les bouge. Des rubans aussi, satinés, violets, de pauvres choses qui ne survivent que quelques jours aux enterrements. Je ne savais plus ce que je cherchais. Je ne cherchais plus rien. Pourtant, je courais presque, d'un coin à l'autre, une rangée, une autre, ici, là. Je voulais, je devais être partout. Tout bien voir, tout serrer dans mes bras, tout retenir comme si le temps pressait. Comme si cette vision risquait à tout moment de disparaître. J'errais, j'avais 1000 ans. Mes jambes étaient lourdes et je peinais dans le sable. Un poids terrible, un tassement de tout le corps. Une sorte d'apnée aussi, et la tête qui me tournait, ivresse des profondeurs. J'ai suivi une allée bordée de marronniers. Fin mai, des marrons tout neufs jonchaient déjà le sol. Bizarrerie. Là-bas, au-delà des murs, un printemps dans la force de l'âge. Ici, à l'ombre des croix, un automne pour arbres débiles, aux choses inanimées. Au bout de l'allée, soulagement. 4 petits clins d'yeux comme un sémaphore de vie, des coquelicots blottis tout contre le mur, presque dehors, mal à l'aise, timide. En venant, j'en avais vu des dizaines pourtant sur le chemin qui s'obstinait à pousser entre 2 pavés le long de la route autour des poteaux. Ici, chez les oubliés de la mort, 4 seulement, frileux et bien chétifs, tremblant dans le vent. C'est bien courageux, ça résiste à tout pourtant le coquelicot. Chien, gamin, voiture, impressionniste, à tout. Mais pas au désespoir, faut croire, pas à l'abîme. Ils n'étaient pas là pour rien, les coquelicots. Ils montaient à 4, bravement, une petite garde rouge sur la rangée des enfants morts. 15 de croix. Il y en avait une récente qui me tendait les bras. Je ne pouvais pas la rater. Elle était comme faite exprès pour moi. Moi qui suis un peu d'Ostende, un peu marin et tout. Un nom, un prénom, je ne sais. Seulement Horn. Horn. Morné. Et une date, un jour de la semaine d'avant. Et pas une fleur sur cette pauvre tombe. Pas un signe, rien de rien. Abandonné, oublié déjà. Orne. C'est bête, mais on ne peut pas s'en empêcher. Je songeais Albatros. 50e et majesté de la grande houle puissante et bleue. Albatros. Même pas poussin. Œuf. Orne. Morné. À Nanterre. Misère. Je ne pouvais plus partir, je restais là, abruti, ahuri, sous de vision et de fièvre. Mes pieds s'enfonçaient lentement dans le sable, et je devenais croix, moi aussi. J'espérais une grande marée qui jamais ne viendrait pour nous emporter bien loin. Orne et moi, bien loin, tout au long de la dernière estacade du monde. Pour y jouer à qui pisse le plus loin, pour y cracher au vent, pour y cueillir un brin d'éternité. J'ai dû m'arracher, pitre, que je me disais, vieux clown, cornichon, saligaud, artichaut. Je suis parti tout de même finalement, plus pauvre encore, et m'étouffait cette noire question qui m'emplissait de partout comme une vague d'encre. Y a-t-il une vie avant la mort ?
Voilà. Donc, pour son arrivée...
On arrive à la fin de notre heure d'émission.
Je peux quand même faire une annonce par rapport à notre débat. Le débat du groupe libertaire d'Ivry à Publico, 145 rue Amelot, enfin la librairie de la Fédération anarchiste. Donc, c'est jeudi qui vient, là, donc après-demain. Non, demain.
Demain,
carrément. Demain à 19h, sur le thème, puisqu'on parlait de l'horreur du travail, sur la projection des Lascars du LEP électronique. Donc des ados qui en 86 parlent du mépris dont ils ont été victimes de la part des étudiants, ils font la critique du travail entre autres de l'école aussi, et ils ont fait un documentaire à l'époque qui s'appelait On a voulu nous rendre con, c'est raté, on n'est pas plus bête que vous, on n'ira pas à l'usine. Voilà.
Merci. Voilà, un système de l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Eh bien, on va maintenant écouter l'émission Un rayon de soleil de Radio Libertaire Méditerranée. Eh bien, salut.